On va vous demander d'écouter avec beaucoup de silence et d'attention. Et ensuite, vous aurez l'occasion de poser vos questions aussi. Il y aura les boîtes à questions. Ceux qui veulent poser des questions écrites pourront le faire. Et ceux qui souhaiteront poser des questions oraux, par voie orale donc, pourront le faire aussi, Inch'Allah. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a donné la chance d'être réunis dans cette ville de l'entre-deux en ce jour de samedi de vacances, uniquement et seulement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le thème qui va être développé ce matin par notre invité, le docteur Bilal Roja, et moi-même donc, va être les addictions et l'islam. Nous allons commencer, mais avant de commencer, je voudrais introduire juste par un récit qui est éloquent. Et je vous demanderai d'avoir ce récit un petit peu comme fil conducteur de tout le reste de ce qui va suivre du discours. Car ensuite, nous allons essayer, en dialoguant avec vous, d'essayer de comprendre les facteurs de la dépendance, qu'est-ce qui nous y amène, quelles sont les solutions, mais aussi de comprendre quelque chose qui est essentiel. Parmi les grands rois que l'humanité a connus, il y en a eu un qui s'appelait Héraclius. Si vous prenez Hayat al-Sahaba, vous regardez dans le troisième volume, Hazrat Maulana Yusuf rahmatullahi alayhi, il a noté beaucoup de récits où on fait mention justement de ce roi, le roi de Byzance. Héraclius, un jour, il a convoqué sa cour. Il leur a dit que ce matin, j'aimerais solliciter votre avis et que chacun d'entre vous me donne son opinion afin que nous puissions stopper la progression de l'islam. Et chacun a donné son opinion. Certains ont dit, on va combattre, on va faire telle chose, telle chose. À la fin, il y a un vieil homme qui a levé le doigt, il a dit au roi, est-ce que je peux donner mon avis? Alors le roi, il lui a dit, parle. Et ce vieil homme, il lui dit, j'aimerais que tu fasses venir le guerrier le plus robuste et le plus fort du royaume. Alors on a appelé ce soldat. L'empereur s'est dit, sûrement c'est un vieux fou qui est en train de dire quelque chose, mais comme j'ai donné la parole à tout le monde, je vais respecter ce qu'il a demandé. Lorsque le soldat est arrivé, il lui a dit, maintenant j'aimerais que tu lui donnes le sabre qui a été forgé dans le métal le plus solide de tout le royaume. Alors on lui a donné ce sabre. Ensuite il lui a dit, fais demander le rocher le plus énorme qu'il y a dans ce royaume qu'on peut trouver. On l'a apporté devant ce soldat. Et là, ce vieillard qui dit au roi, demande-lui de briser cette roche. Imaginez qu'on vous appelle devant M. Sarkozy. Et on dit que lui, c'est le plus grand jongleur de football. Et regardez comment est-ce qu'il va faire. Alors vous allez montrer votre motivation, etc. Alors ce soldat-là, subhanallah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé de toutes ses forces. Et vous savez ce qui est arrivé? Le sabre s'est brisé en deux. Et le vieil homme de dire que si tu veux affronter les musulmans frontalement, voilà ce qui va se passer. Mais s'il y a trois maladies, trois choses que nous faisons, les Byzantins, l'Empire romain en Orient, et que tu arrives à transposer cela, c'est-à-dire à amener cela, à mettre ça chez les musulmans, eh bien, il lui a dit, au voie ben musulman, eh bien, comme on mange un affaire, on va manger maintenant comme ça. Alors, les trois choses, c'était quoi? La première chose qu'il a dit, c'est l'adultère. Il dit, comme nous, on aime les femmes, et on, sans rentrer dans le cadre du mariage, on s'approche des femmes, etc. Mais Chokat, il a développé à soi. Il a dit, si tu amènes cela dans les musulmans, ça en est fini. Deuxième chose, qu'il consomme de ce qui est illicite. Et troisième chose, que eux aussi, ils aient l'amour de l'alcool, du vin, de ce qui apporte l'ivresse. Donc, c'est pour cela que ce matin, nous allons essayer de parler un peu de tout ce qui amène une dépendance à l'homme. Parce que l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné beaucoup de qualités. L'homme est dépendant d'Allah et sa dépendance ne doit être que vis-à-vis d'Allah et seulement d'Allah, pas d'autre chose. Donc, à côté de moi, il y a donc le docteur Bilal Rojoa, qui est un psychologue, mashallah, qui a l'habitude de travailler sur les addictions, qui forme même des médecins généralistes, qui fait des sessions, qui explique. Nous avons la chance de l'avoir parmi nous. Alors j'aimerais, en commençant, eh bien que vous me dites, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un psychologue déjà? Qu'est-ce que c'est qu'un psychologue? Si on peut lever le doigt pour répondre. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un psychologue? Pas de réponse? Un psychologue, c'est pour les fous. Si c'était pour les fous, vous croyez qu'il serait venu ici? Vous n'êtes pas fous. Oui. Quelqu'un qui essaie de comprendre les gens. Docteur, c'est une bonne réponse?
Très bonne réponse. Donc...
On a d'autres réponses? Est-ce qu'on a d'autres réponses? Oui. C'est quelqu'un? On peut avoir quelqu'un qui fait passer le micro? Il aide une personne à être bien dans sa peau. Deuxième réponse. Il aide une personne à être bien dans sa peau. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Basse? Oui? Derrière? Oui, Chokat. Mais si, au moins tout le monde t'entend. C'est déjà allumé.
Il donne des conseils aux gens malades.
Est-ce que quelqu'un veut donner une réponse encore? Les Dionysiens, vous savez pas ce que c'est qu'un psychologue alors? Oui, on les chocate. Ah, chacun son tour, chacun son tour.
Un psychologue, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose précis. Il travaille sur la mentalité des gens. Et c'est tout.
C'est... Il résout... C'est un micro là, monsieur.
Il résout les problèmes psychologiques.
La fin de Dieu, le monde.
Il écoute les problèmes des gens et les aide à les soigner.
C'est bon. C'est bon.
Le docteur va vous donner la réponse maintenant.
Je suis très content que ça attire beaucoup votre attention. Tout d'abord, je voulais me présenter. Je suis Bilal Rougeois, je suis psychologue à l'EPSMR, établissement public de santé mentale de La Réunion. Ça fait un peu peur, mais en fin de compte, mon rôle, un peu, c'est d'améliorer la qualité de vie et étudier un petit peu toutes les causes qui ont un effet négatif sur votre santé. C'est vrai, comme chacun d'entre vous dit, les problèmes psychologiques, écouter les gens, c'est vrai que je ne suis pas tout seul aussi. Il y a moi qui interviens, il y a aussi une équipe, il y a aussi vous qui a un rôle important dans cette prise en charge. Donc moi j'interviens au niveau du CMP, Centre Médico-Psychologique. Je suis aussi le psychologue référent à l'hôpital de jour en adulte sur Bras-Panon. Et je suis référent aussi de l'unité d'alcoolologie de liaison sur l'Est aussi. Je voudrais tout d'abord dire que je suis très content d'être parmi vous. Je suis très content de voir cet effectif très important. Pour ma part, c'est ma première communication aussi avec un très grand public. Donc je m'excuse d'avance si je suis un peu maladroit ou un peu brouillon dans mes interventions, mais je compte sur vous pour me corriger, pour me guider dans mes messages. Donc on peut parler toute la journée des addictions, mais je pense que je vais parler très brièvement des principales addictions. Il y en aura d'autres, car tout simplement aussi on suit l'évolution de la mode, hein. Ma génération, c'était la cigarette qui était tabou. Maintenant, vous savez bien qu'il n'y a pas que la cigarette. Il y a la cigarette, l'alcool, même les enseignements à l'université changent pour tout simplement mieux répondre à ces différents fléaux. Il y a le Zamal ici, il y a le Rivotril, les cachets. Tout simplement, beaucoup de choses qui peuvent causer, participer à notre mal-être. Donc, voilà, je présenterai un petit peu. Mon but ici, c'est de vous informer, de ne pas vous faire de leçons de morale. Enfin, j'espère que je n'aurai pas cet objectif. De l'information, parce que, pour ma part, je pense que vous avez tous des ressources, des compétences, une intelligence qui est grandissante. Et j'espère que ces interventions vous permettront de mieux traiter la question, de mieux éviter certains pièges de notre société et aussi de faire appel aussi à l'aide. Demander de l'aide est tout à fait légitime. Lorsque je cite un exemple très simple à mes jeunes patients, lorsque vous habitez par exemple dans un appartement, vous voulez déménager. Tout seul, on peut y arriver. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'on peut faire un déménagement tout seul? Pourquoi? C'est possible. Et qu'est-ce que vous allez faire? Pardon? Qu'est-ce que vous allez faire pour faciliter votre déménagement? Vous allez appeler des copains? Oui. Des voisins, s'ils sont sympas.
La famille.
Voilà, vous allez utiliser tout simplement un réseau d'aide, un réseau de soutien. Ça ne veut pas dire que vous êtes inférieur ou que vous êtes faible, entre guillemets. C'est pour faciliter, pour vous mettre dans de bonnes conditions. C'est pour ça que, voilà, mes informations, j'espère, vous pousseront à retraiter un petit peu, vous sensibiliser et aider aussi vos proches. On peut aussi être aidant amener aussi notre ami ou notre sœur ou notre cousine à une démarche de soins. Chaque personne d'entre nous est importante dans la société, a une place et des rôles bien définis. Donc voilà. Et puis, bon, il y aura Molly Bagat qui interviendra pour apporter aussi sa philosophie et son regard et ses connaissances par rapport à la religion et les addictions. Et puis, voilà, bon, n'hésitez pas à me couper ou m'interpeller si vous ne comprenez pas une information. J'essaierai de parler aussi un petit peu en créole pour un petit peu faire comprendre tous les messages. Et puis, voilà, il y aura aussi une intervention du maire qui nous passera
vers 10 heures.
Nous saluer vers 10 heures. Ça permettra de faire une petite coupure et de terminer ensemble par vos questions.
Je demande ce que c'est vos questions. Pardon. On va demander ce que c'est vos questions.
Ah oui, moi j'aimerais, enfin on a défini ma profession très de manière, enfin je suis très curieux de, enfin je suis très intéressé d'avoir cette définition qui permet de compléter justement mes missions de travail. Je trouve que on a autant besoin de vous. Hein, parce que la société, vous faites partie de la société. Vous n'êtes pas des exclus, vous n'êtes pas vous n'êtes pas différent d'une majorité. C'est pour ça que je demandais justement vos représentations, enfin Moïssa demandait la représentation, la définition que vous avez un psychologue. C'est vrai que des fois nous sommes piégés par des représentations ou des fausses images ou des faux stéréotypes. Hein. Pour justement rejoindre, je crois, un ami qui disait que psychiatre, c'était pour les fous. C'est vrai, c'est une image qui peut justement freiner quelqu'un à faire appel à un psychologue. Parce qu'il va me dire, beaucoup de personnes m'ont dit, je ne suis pas fou. Ça, c'est tout à fait entendable. Mais bien sûr, ça, ce sont des fausses images que moi, je rectifie et qu'on essaie de travailler. C'est un travail ensemble. Toute prise en charge, c'est un travail ensemble. Et vraiment, vous avez un rôle très important dans cette prise en charge. C'est vrai que les efforts viennent plus souvent de vous. Hein. C'est vous qui êtes moteur de cette prise en charge. Pour moi, j'aimerais compléter mes connaissances. J'aimerais savoir un petit peu, pour vous, c'est quoi un Molissab de nos jours en... Parce que moi, j'avais une définition, je suis de 1979... maintenant, 20 ans après, j'aimerais savoir, vous les jeunes, c'est quoi un Molissab, pour voir si ça a changé un petit peu. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise question, hein, de bonne ni de mauvaise définition.
Levez le doigt, s'il vous plaît.
Ben, un Molissab, c'est une personne qui peut nous aider. Un Molissab, c'est une personne qui peut nous aider dans les études, qui peut nous apprendre plusieurs choses qu'on ne sait pas, qui peut enrichir nos pensées et nos connaissances. Un Molissab, c'est une personne qui est pieuse. Voilà, qui est pieuse. Voilà. Voilà, qui peut nous apprendre plusieurs choses. Et si on a plusieurs questions, ben voilà, on peut lui demander.
Un Molissab pour nous, c'est une personne qui a acquis des connaissances, qui veut nous faire partager ce qu'il a appris, car le meilleur d'entre nous, c'est celui qui apprend, qui fait apprendre aux autres.
Merci.
Qui encore?
Vous pouvez aussi utiliser des adjectifs, hein, des verbes pour définir un Molissab.
En fait, moi, je pense que dire c'est quoi un Molissab, c'est pas vraiment la question à poser. Je penserais plutôt de quelle est l'utilité d'un Molissab envers ses élèves, en fait. Qu'est-ce que le Molissab il apporte à ses élèves? Ben, moi, je pense que un Molissab, ce qu'il apporte à ses élèves, déjà, c'est un soutien spirituel. D'une part, Et aussi, ben, à Moïsab, son rôle, c'est au départ d'encadrer les jeunes pour leur diriger vers le bon chemin, en fait. Ils sont en quelque sorte comme quelqu'un de notre famille, mais qui n'est pas vraiment de notre famille.
Merci. Quelqu'un d'autre? Non, ben, Moulissab, c'est un savant islamique qui est spécialisé en jurisprudence, non? Enfin, pour moi-même. J'aurais une petite question pour guider vos réponses. Pour vous, quelles sont les difficultés pour vous pour interpeller un Moulissab? Qu'est-ce qui rend difficile des fois d'interpeller un Moulissab?
Personnellement, ben, Moulissab est là pour nous aider. Ben, c'est comme un professeur, l'école, professeur à l'école. Et il est là pour aider nous pour avancer, ben, pour connaître et pour savoir vivre aussi. Et sans plus.
Salakoum.
Ben, personnellement, pour moi, Moulissab, ben, mes parents me l'ont toujours dit. Un parent, c'est. En gros, il passe toujours après les parents, c'est vrai. Parce que c'est les parents qui nous ont mis au monde. Mais mes parents m'ont toujours dit que le professeur, que ce soit à l'école ou à la madrasa, c'est toujours un professeur. Ce qui veut dire que tu dois toujours avoir un respect envers lui. Pourquoi? Parce que c'est lui, en gros, qui t'a donné une deuxième, pas une deuxième vie, mais on va dire qui t'a apporté les connaissances. Ma mère m'a mis au monde, m'a donné du lait et tout, mais mon père aussi. Et un Moulissab, c'est quoi? Ben, il m'a appris à l'BTC et je crois que sans eux, ben, aujourd'hui, je ne serais pas là, quoi. Voilà, quoi.
Merci.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur Bilal, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est bien que vous posez la question, c'est quoi un Moulissab? J'ai 32 ans et jusqu'à maintenant, je ne sais pas le vrai sens du Moulissab. Mais je voudrais quand même lancer un appel, que moi je voudrais que ce Moulissab-là, il soit ouvert pour tout le monde. Comme a dit tout à l'heure le frère, qu'il doit être avec les jeunes. Mais non seulement avec les jeunes, mais il doit être proche des parents, proche des gens, proche de la société. Il doit être ouvert aux gens, il doit parler aux gens, et il doit être quelqu'un, comme notre messager sallallahu alayhi wa sallam, il doit être quelqu'un qui doit être facile à approcher, qu'on peut lui parler sans crainte, qu'on peut lui partager nos sentiments, nos problèmes, et tout ce qu'on a. Et moi je voudrais que ce Moulissab-là, eh bien, il soit le Moulissab comme je l'ai expliqué, Inch'Allah, jazakumullahu khairo.
Merci.
C'est que des fois, on a peur de dévoiler ses problèmes personnels
on veut pas tout dire parce qu'on a honte.
C'est quoi?
On a des problèmes et on veut avoir des solutions, mais on n'ose pas demander. Parce que... Non. Voilà.
Quelqu'un d'autre?
C'est bon.
C'est bon. Un peu de silence, s'il vous plaît.
Je laisse la parole à Moïssa pour définir un petit peu sa profession, la vraie représentation d'un Moïssa. C'est vrai qu'on peut être vraiment piégé dans notre société par des stéréotypes. Enfin, moi, j'entends souvent, même pour des soignants, qu'on est là pour juger, qu'on est là pour discriminer, on est là pour alerter nos parents ou nous descendre encore plus. Ça, ce sont des pièges. C'est pour ça que je tenais quand même à voir un petit peu la représentation que vous avez chacun. Chacun a une représentation personnalisée. Mais c'est vrai que c'est intéressant de repartir avec des vraies informations, pas sur des fausses images qui circulent malheureusement. Ce sont des pièges de notre société sur cette très belle profession.
Alors, qu'est-ce qu'un Moïssab? Déjà, ce qu'un Moïssab, c'est un policier, c'est un gendarme, parce qu'il est là pour vous juger. Avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans ce gymnase, regardez à droite, à gauche, derrière vous, à côté de vous, vous avez des Moïssabs. À la base, un Moïssab, c'est quelqu'un qui a, pour beaucoup d'entre nous, qui a grandi à La Réunion, comme vous. On a joué au foot, on est allé à l'école, on est allé au collège. Et le Moïssab, avant même de parler d'une profession, je veux dire que c'est une vocation. On le fait par vocation. À savoir que pendant 5 à 7 années, ce sont des personnes qui vont aller dans une madrasa, qui vont aller apprendre à connaître leur religion, au travers de ce savoir, apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais partager une confidence avec vous. Avant d'aller faire mes études, il y a des personnes ici qui m'ont côtoyé lorsque j'étais plus jeune. J'étais quelqu'un de très fermé, de très carré, de très rigide et de très rigoriste. Et le fait d'être allé faire des études et d'avoir appris qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam permet, contrairement à ce que l'on pense, d'avoir cette ouverture d'esprit. Et comme l'a très bien dit Hafez Ahmad Saïd, de comprendre comment était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il faut être, quelle doit être notre approche de la vie. Et comme le docteur l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on parle d'un psychologue, on a toujours l'impression de se dire, ah, si à l'école vos résultats ne sont pas bons, on vous dit, bon, on va vous mettre avec un psychologue pour analyser quels sont vos problèmes, on va dire, t'es mais pas fou moi avec toi. Et si un Moïssa vient vous voir, qu'est-ce qu'on va dire? A fait les quoi avec moi? Quoi les chercher avec moi? Pourquoi Moïssa il rentre dans la tête, ça? Ahmad, Moïssa va? Il rentre dans la tête, là? Ou bien Moïssa Blé, il veille? Non. Ce Moïssa, c'est quelqu'un comme vous. Son rôle ne sera jamais de vous juger. Mais le Moïssa, il est là. Il est un ami. Il est un confident. Il est un grand frère. C'est quelqu'un qui est à votre écoute. Et ce n'est pas parce que vous lui avez dit que, ben Moïssa, vous connaissez, avant comme était fait, ben, mon grand-mère, elle était gagnée une plaquette, comment, Rivotril, la première médecin avant pour acheter un deux maillots comme ça. Ce n'est pas pour cela qu'il va vous juger, parce qu'il le sait. Ce n'est pas pour cela qu'il va vous juger, mais au contraire, parce que vous avez eu le courage d'en parler avec lui, qu'est-ce qu'il va faire le Moïssa? Il va essayer de vous aider. On va essayer de discuter, on va essayer de communiquer. Ça, c'est le rôle du Moïssa. Donc, là aussi, ce que j'aimerais, moi, parce qu'on a des jeunes de différents horizons qui sont là, de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Louis, de Saint-Paul, du Port, de Saint-Denis, de Saint-André, c'est que si jusqu'à maintenant, lorsque vous côtoyez votre Molissa, vous aviez ce regard en disant que ça, il n'est pas causé avec les gens. Maintenant, c'est un autre monde. Ça. Non, c'est quelqu'un qui évolue sur la même planète que vous. Qui a les mêmes soucis que vous. C'est un père de famille, il a des enfants, il a une femme, il a les mêmes besoins que vous. La seule chose, c'est qu'il a fait des études. Il a une vocation, la vocation de servir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un idéal, l'idéal qui était celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, en quelques mots, ce que serait qu'un molissab. Vous avez des questions à ce sujet?
Voilà, je voulais terminer notre introduction pour, par rapport à comment on va fonctionner ensemble, pour que ce soit vraiment profitable dans les deux sens. Comme vous le constatez, on vous sollicite beaucoup, parce que je pense que c'est un travail à deux. J'ai quelques règles que j'essaye de respecter, que nous essaierons de respecter durant cette matinée. C'est vraiment de laisser parler tout le monde. Quand je parle, c'est vrai qu'il y a un silence, je vous remercie, mais laisser aussi parler, c'est le respect de la libre écoute. Quand un ami parle, c'est vrai que le laisser parler, déjà, c'est un respect. Hein. Et on n'est pas là, comme disait Moïssa, pour vous juger. Hein. Notre rôle est vraiment de vous informer, de vous aider et d'améliorer votre bien-être. C'est tout. Hein. Et sachez qu'il n'y a pas aussi de bonnes ni de mauvaises questions. N'hésitez pas à nous interpeller, même pendant ou après. Hein. Parce que je comprends aussi que certains, peut-être, c'est pas très confortable d'intervenir en public, mais en fin de séance, j'essaierai un petit peu de présenter mes disponibilités pour répondre à toute autre attente. Et bien sûr, respect et confidentialité, c'est aussi une règle importante. Chacun peut parler librement, peut s'exprimer. On n'est pas là à la fin de la séance, lui il a posé 3 questions, lui il a posé 7 questions, c'est pas ça notre but. Vraiment c'est de profiter au maximum de cette matinée pour que ce soit profitable vraiment dans les deux sens, pour nous aussi, pour vous. Donc je vais commencer un petit peu sur la cigarette, le tabac. Bon, je pense que je m'adresse à un public de jeunes. Je me dis qu'il faut que je prenne des informations très très intelligentes. Je pense que tout le monde sait que la cigarette tue, la cigarette provoque des cancers. Ça, je pense que chacun d'entre nous sait. C'est quelques informations que notre société diffuse autour de nous. Donc, il faut savoir que moi, bon, j'ai essayé d'apporter d'autres informations qui permettent de compléter vos connaissances, qu'environ il y a 70 000 Français qui perdent 20 ans de leur espérance de vie avec la cigarette. C'est-à-dire qu'ils meurent 20 ans avant. Hein. Ils perdent 20 ans sur leur espérance de vie à cause de la cigarette. Ça, c'est un effet direct. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai retenu dans une étude britannique qu'il y a 3/4 des fumeurs qui disent qu'ils ont une intention, qu'ils savent que c'est une drogue, que c'est une dépendance, que ça, tout ce qui est les messages écrits sur les boîtes de cigarettes, disent qu'ils veulent, qu'ils souhaitent arrêter de fumer. Mais dans ce pourcentage de personnes, les 3/4 n'y arriveront jamais. Donc l'idée à retenir, c'est que malheureusement, pour ces 3/4 de personnes qui ont une intention d'arrêter, pour eux, la cigarette est supérieure à eux. Ça, c'est un des pièges à éviter. Parce que bien souvent, c'est vrai que lorsqu'on fume, lorsqu'on est fumeur, j'en côtoie pas mal autour de moi, à mon travail. Oui, on me dit toujours, c'est moi qui contrôle la cigarette, c'est moi qui est plus fort que le tabac, j'arrête quand je veux. Si c'est demain, c'est pas un souci, mais malheureusement, on n'a pas conscience, on ne peut pas contrôler entièrement ce produit. C'est vrai que pour les 3/4 des gens, ça c'est important, hein, de comprendre qu'ils sont enfin, le piège de la dépendance, c'est qu'ils sont finalement inférieurs à cette drogue. Il faut savoir aussi, on commence maintenant à souligner que les non-fumeurs sont aussi victimes. Bien souvent, lorsqu'on fume, j'entends autour de moi dire « je fais attention, je ne fume pas devant mes enfants » ou « je ne fume pas devant mon frère et ma sœur ». Il y a un vrai risque, hein, ça s'appelle le fumeur passif. Il y a un vrai risque, il y a des vraies données, mais bon. Ils sont aussi victimes de maladies respiratoires, d'aggravations au niveau d'asthme. On retrouve aussi chez la femme en grossesse, ceux qui sont mariés ou ceux que leur femme ne fume pas, durant la grossesse, ils peuvent avoir aussi des conséquences sur le nourrisson. Donc, il faut savoir aussi que la cigarette est un produit, tout simplement. À part une drogue, c'est un produit d'une industrie, une industrie qui est un peu pervers. L'objectif d'un produit, vous avez un produit, l'objectif c'est de quoi? Vous avez un nouveau produit dans votre magasin, l'objectif c'est quoi? De vendre? Oui. D'avoir un maximum de clientèle. La cigarette, tout simplement, c'est ça. L'industrie, c'est pour ça qu'elle est un peu pervers. Merci. Donc, c'est d'avoir un maximum de clients. Et pourquoi je suis plus sensible au niveau des jeunes? Parce que c'est vrai que le risque de développer une dépendance, c'est entre 12 et 17 ans. Malheureusement, la personne qui commence sa cigarette à 35-40 ans aura un risque très faible de développer une dépendance. Chez les jeunes de 12-17 ans, le risque est, je crois, 20 fois plus élevé pour développer une dépendance. Lorsqu'on s'attarde un petit peu, je prends un exemple de dépendance, d'addiction, les téléphones portables, les opérateurs, les publicités. Le public visé, c'est qui ? Les forfaits pour les jeunes, tous les avantages pour les jeunes, leur but c'est d'avoir aussi un maximum de clients pour qu'on soit dépendant, pour qu'on a toujours notre téléphone portable quand on devient adulte, etc. La cigarette c'est la même chose. Cette notion de dépendance, c'est un critère commercial, lorsqu'elle touche une population de 12 à 17 ans, on a beaucoup de chances d'avoir une dépendance. Quand on voit les pubs au niveau des jeunes, c'est cette tranche d'âge qui est concernée. Mais le souci, c'est que la cigarette, à long terme, c'est vrai que elle a une dépendance, mais à long terme, c'est un développement de risques et de conséquences. C'est vrai que les complications, un effet direct, 40% des cancers sont attribuables au tabac. Après aussi, elle peut avoir aussi un rôle sur la survenue des cancers, maladies cardiovasculaires, respiratoires. Chez la femme enceinte, le risque aussi est énorme, au niveau du poids, des morts subites à la naissance. J'ai un collègue qui a constaté un effet de un exemple de plus en plus fréquent qui touche pas mal de femmes qui ont commencé très jeune la cigarette. Je veux dire, tout le monde le sait que la cigarette influe sur notre respiration, sur notre rythme cardiaque. Je pense que vous serez très vite essoufflé, ça c'est clair et net. Lors de l'accouchement, on a